Et c'est maintenant le temps de vous parler de cette campagne de sensibilisation sur les signes de l'AVC, campagne menée par la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, avec le docteur Robert Côté, lui, neurologue, oui, à l'Hôpital général de Montréal. Bonjour, docteur Côté.
Bonjour.
On s'était parlé, il n'y a pas si longtemps, en novembre dernier, la mère d'une amie venait de vivre, de subir un AVC, et ça m'avait beaucoup interpellée. Aujourd'hui, ce qui m'interpelle dans notre discussion, docteur Côté, c'est ces chiffres qui sont assez troublant de savoir que 50 % des Québécois ne savent pas reconnaître les signes de l'AVC.
Oui, évidemment, ça fait plusieurs années que la Fondation des maladies du cœur procède à des enquêtes au niveau du public afin de sensibiliser le public aux symptômes de l'AVC. L'AVC était en général jusqu'à récemment beaucoup moins connu, évidemment, là, comme présentation que la maladie cardiaque, par exemple. Mm-hmm. Alors, ce qui est important pour la Fondation, c'est d'évaluer, évidemment, le niveau de connaissance dans le public pour ce qui est des symptômes de l'AVC. Et la raison de ça, c'est que, contrairement à il y a, je vous dirais, peut-être une dizaine d'années, on a maintenant des traitements pour l'accident vasculaire cérébral aigu qu'on n'avait pas à l'époque. Mm-hmm. Alors, c'est important, évidemment, de vérifier le niveau de connaissance au niveau du public des principaux symptômes là, de l'AVC afin que les gens puissent être référés de façon adéquate et appropriée à leur médecin ou aux urgences les plus proches là, s'il s'agit d'un problème aigu. Là.
Mais parce que c'est une façon aussi d'éviter des séquelles.
Évidemment. En fait, l'accident vasculaire cérébral, il y en a deux grands types. On a le type qu'on appelle ischémique, qui est dû à un caillot, alors un blocage d'une artère où les cellules cérébrales vont mourir par manque d'afflux sanguin. Mais il y a également le type d'AVC hémorragique, qui est plutôt dû à une rupture d'un vaisseau. Alors, il s'agit d'une hémorragie intracérébrale. Alors, c'est les deux grands types. Et évidemment, selon le lieu où le vaisseau va être bloqué ou rupturé, il va y avoir destruction de certaines cellules du cerveau. Et évidemment, si ce sont les cellules qui s'occupent du langage, ben on va avoir des problèmes de langage. Si ce sont les cellules qui s'occupent de la motricité, ben il va y avoir une faiblesse. La vision, il va y avoir une perte de vision. Alors, on peut deviner que dépendant de la partie du cerveau qui sera affectée par l'AVC, il pourra y avoir différents types de symptômes. Et souvent, les symptômes, si le traitement n'est pas fait à temps, les symptômes peuvent être permanents. Alors, il s'agit là, d'incapacité là, au niveau de la communication visuelle ou motrice.
Quels sont-ils, ces traitements-là, Dr Côté?
Il y a deux grands types de traitements là, depuis quelques années là, qui ont été validés là, dans la littérature. Un premier traitement, c'est un traitement intraveineux que l'on donne. Dans les deux cas, il s'agit des AVC ischémiques, qui sont des AVC dus à un caillot cérébral. Et c'est le type d'AVC, évidemment, qui est le plus fréquent. Alors, plus de 80-85% des AVC sont de ce type-là. Et on a deux interventions aiguës. La première, c'est une injection intraveineuse d'un médicament qui s'appelle le TPA, qui est un médicament qui aide à dissoudre le caillot. Et en général, le patient, par ailleurs, doit être traité de façon assez urgente, en général, environ dans les premières 4 heures du début des symptômes.
Okay.
Alors, vous pouvez vous imaginer qu'entre le début des symptômes et le traitement, au maximum, il faut que ce soit 4 heures et de préférence, beaucoup moins que 4 heures.
Alors,
on peut voir
vite.
Là qu'il y a un effet chronodépendant. Là, il faut que les gens reconnaissent les symptômes si on veut les amener à un traitement adéquat.
Il y a beaucoup de neurones aussi qui peuvent disparaître.
Alors, on a évalué, grosso modo, c'est impossible là, d'avoir des chiffres exacts, mais on sait qu'on peut perdre environ autour de 2 millions de cellules cérébrales par minute lorsque le flot est interrompu. Et la deuxième intervention, à part le traitement intraveineux là, pour dissoudre le caillot, c'est ce qu'on appelle une thrombectomie. Alors là, à ce moment-là, le radiologiste va naviguer un cathéter au niveau des artères jusqu'au niveau du cerveau où il y a le blocage et on va aspirer et déloger le caillot afin de l'extraire de façon mécanique au lieu d'une façon chimique là, avec le premier traitement dont je vous ai parlé. Puis ces méthodes-là sont très efficaces. On a des patients, en fait, qui se présentent avec des paralysies complètes et perte de la parole et qui, suite à ces traitements-là, à l'intérieur de quelques heures, peuvent recouvrir complètement leur capacité normale. Alors, il s'agit de traitements, jusqu'à un certain point, révolutionnaires au niveau neurologique parce que, on n'avait pas accès à ces interventions-là auparavant. Et vous pouvez vous imaginer que parce que ces interventions-là doivent être faites très rapidement, eh bien, c'est important que le public et les gens qui sont à risque puissent reconnaître les signes le plus tôt possible pour pouvoir consulter.
Et la méthode VITE, c'est une méthode qui est toute simple, efficace, qui a été, je pense, approuvée, qui a été testée un petit peu partout, là.
Un peu partout dans le monde,
Ouais.
en Amérique du Nord surtout, alors aux États-Unis, au Canada, au Québec. Et il s'agit d'un acronyme assez simple, VITE, pour visage, le visage est-il affaissé. Alors souvent, les patients avec qui vont présenter un AVC vont avoir une asymétrie au niveau du visage. Alors un côté du visage va tomber un peu. Incapacité pour le I. Est-ce que le patient peut lever les deux bras normalement? En général, un des bras va être faible. Alors, il y aura une faiblesse d'un côté et non de l'autre. T, c'est pour le trouble de la parole. Alors, les gens vont avoir soit des troubles de la prononciation ou soit qu'ils ne pourront dire ou ne pourront parler ou dire des mots. Alors, ils vont chercher leurs mots ou ils vont mal les prononcer. Et le E, c'est pour extrême urgence. Ben, ça rejoint ce qu'on vient de dire,
Ben
c'est
oui.
que les traitements disponibles sont des traitements qui doivent être donnés à l'intérieur de 4 à 6 heures ou plus tard.
Est-ce que ça peut être efficace pour le trouble de la parole, de poser des questions à une personne dont on soupçonne de vivre un AVC?
Ben, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut leur demander quelques petites simples commandes, comme on dit. Alors, on peut demander, si on soupçonne un AVC, on peut demander à la personne, ferme tes yeux, fais un point avec ta main droite, lève ton bras gauche. Alors, on peut demander quelques petites questions simples comme ça. Et si la personne ne peut pas faire ces choses-là, on peut déduire de ça qu'il y a possiblement un problème de la parole ou du langage, là.
Maintenant, docteur Côté, est-ce que toutes les personnes qui vivent un épisode d'AVC vont avoir le même type de symptômes? Est-ce que ça se retrouve de la même façon chez tout le monde, hommes, femmes, selon l'âge également?
Oui, en général, la présentation n'est pas spécifique en termes là, de masculin, féminin ou en termes d'âge. Ça va dépendre évidemment, comme je disais tout à l'heure, de la partie du cerveau qui va être affectée.
Ah oui.
On sait aussi que chez les gens plus âgés, alors les gens peut-être là au-dessus de 80 ans là, qui vont présenter des AVC, souvent les AVC sont très sévères parce qu'ils sont dus à des causes associées à des problèmes cardiaques. Et en général, les caillots sont un petit peu plus gros. Alors, il y a plus de blocage au niveau cérébral. Alors, des AVC vont être plus sévères avec l'âge, disons, en général. Mais pour ce qui est du sexe, il n'y a pas vraiment de différence là, dans la présentation clinique là, des symptômes.
Maintenant, avant de se quitter, je veux qu'on parle des facteurs de risque. Qui est susceptible de vivre un
Oui,
AVC?
ça c'est extrêmement important parce que les gens qui sont le plus à risque de faire un accident vasculaire cérébral, évidemment l'âge c'est un des facteurs le plus important, mais malheureusement on peut pas encore changer
Non.
le vieillissement.
Non.
Mais les facteurs de risque qui sont modifiables, c'est l'hypertension artérielle. Alors, la tension artérielle élevée est un facteur de risque le plus important modifiable pour l'AVC. La présence de maladies comme le diabète est un facteur de risque qui augmente. Les problèmes de cholestérol élevés augmentent le risque. Les patients qui présentent des problèmes cardiaques avec des troubles du rythme cardiaque, notamment la fibrillation auriculaire, ce sont des patients qui présentent un risque accru. Et aussi au niveau des habitudes de vie, les gens qui fument, les gens qui sont obèses, qui sont pas actifs physiquement, sont beaucoup plus à risque là, de l'AVC.
Donc, j'imagine que de changer nos habitudes de vie, c'est vraiment une bonne clé pour tenter d'éloigner un épisode d'accident AVC, là.
C'est certainement une bonne façon de diminuer le risque et en association avec le contrôle des facteurs de risque, les changements d'habitude de vie, là, pour le mieux, ça va diminuer de façon significative les risques d'AVC, effectivement.
Oui, parce que quand même, au Canada, c'est tous les 10 minutes qu'une personne est touchée par un accident vasculaire cérébral. Ce que les chiffres nous disent également, c'est que 80% des victimes vont s'en sortir, mais en même temps, il y a des séquelles aussi pour certaines personnes.
Exactement. Puis dans certains cas, évidemment, il y a une perte d'autonomie, hein, qui
Oui.
survient. Alors, entre, évidemment, comme être humain, notre autonomie, c'est extrêmement important.
Ouais. Une toute dernière question qui stimule ma curiosité. On a déjà entendu parler de gens qui se réveillent la nuit et la vision a changé, il y a un petit changement dans leur équilibre et ils vont voir un médecin, ils apprennent qu'ils ont fait un AVC, mais ça s'est passé dans leur sommeil. Est-ce que c'est une légende urbaine ou ça peut vraiment arriver de faire un accident vasculaire cérébral qui soit peut-être petit et qu'on s'en rende pas vraiment compte?
Non, c'est pas une légende urbaine du tout.
OK.
On dort le tiers de notre vie,
Oui.
mais le flux sanguin, le cœur, le cerveau, nos organes fonctionnent. Alors, les caillots peuvent se former autant le jour que la nuit. Alors, effectivement, beaucoup de patients, un nombre substantiel de patients vont avoir leur AVC au réveil le matin. Déjà, au réveil, auront une paralysie ou une perte de parole.
OK.
Alors, c'est quelque chose qui est très réel, ça. Ça peut survenir très bien durant la nuit.
Et à ce moment-là, ben, bon, il y aura peut-être des séquelles, mais du moins, c'est plus difficile d'appliquer la méthode vite, hein?
Oui, c'est un petit peu plus difficile dans ces cas-là. En fait, les cas au réveil, c'est les cas un peu plus problématiques, je vous
OK.
dirais, en termes de traitement, là.
Ben, docteur Côté, je trouve que la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC est bien chanceuse de vous avoir parce que vous êtes un excellent vulgarisateur. Je rappelle, vous êtes neurologue à l'Hôpital général de Montréal. C'est toujours un plaisir de vous parler.
Ben, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée.
À vous, au revoir.
Bonjour.